Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle méditation, commentaire d'un texte biblique. Et nous voulons tout simplement donner un petit avertissement. C'est tout simplement que nous allons aborder un thème assez troublant, mais qui renseigne sur les agissements d'un ennemi vaincu par notre foi et selon la grâce que nous avons reçue de Dieu, pour croire tout simplement. Alors ça se résume, si je donne un titre, à travers trois mots: suggestion, obsession et cohabitation. Et je voudrais accompagner ces trois mots avec un texte dans notre Bible où il est question de cette présentation qui va être le suivi de ce que nous allons découvrir à travers les enseignements de l'Écriture. Alors nous avons donc dans 1 Jean chapitre 5 versets 18 et 19 cette parole. Et il dira ceci: nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire qu'il est né de nouveau, il s'est repenti de ses péchés, il a choisi Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Alors, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le diable, le malin, ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et il est ajouté, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors nous allons démarrer, nous allons en effet aller un peu plus loin et je voudrais marqué en introduction que l'assujettissement de l'homme, selon les paroles que Jésus nous laisse dans le sermon sur la montagne, nous dit « on ne peut servir deux maîtres à la fois ». On ne peut servir Dieu et le diable. On ne peut, en effet, soit nous allons aimer l'un et haïr l'autre. Illustration de la position de l'humanité depuis la chute, où l'homme a voulu à tout prix se donner une liberté qui est devenu un emprisonnement et un odieux conditionnement existentiel. Et tout cela à l'insu des hommes, à l'insu de l'humanité. Le rejet de Dieu renvoie automatiquement dans le camp adverse, parce qu'il ne peut pas y avoir de neutralité entre l'un et l'autre. Le but de l'évangile est d'éclairer. Et nous savons que dans Actes, et je tourne quelques pages pour atteindre le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, où il est dit ceci, c'est Dieu qui envoie Paul, là en mission, il dit « Je t'ai choisi, Paul, au milieu de ce peuple, c'est-à-dire Israël, et au milieu des païens, vers qui je t'envoie, je t'adresse, afin que tu leur ouvres les yeux, ça c'est important, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et que de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les rachetés, les sanctifiés. » Nous voyons qu'il y a un autre texte, un autre passage, alors je nourris un petit peu ma méditation avec des citations. 2 Corinthiens chapitre 4 et versets 3 à 4, il est dit ceci, nous voyons que là l'évangile est voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin de ne pas voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ, qui est l'image, tout simplement, de Dieu. Alors la question se pose, y aurait-il une si grande méprise que le monde entier serait entre les mains d'un ennemi qui est par surcroît invisible et spirituel? Et ça sans le savoir, nous l'avons dit, précisé il y a un instant. Le monde est un monde de mélange et de confusion la plus totale. Le protagoniste, alors on va parler un peu de son caractère, le caractère de l'ennemi, il nous est dit dans la bouche de Jésus, en effet au chapitre 8, que le diable est le menteur, il ment depuis le commencement et il est meurtrier. En effet, c'est son caractère. Et également, Paul ajoutera ceci dans Éphésiens chapitre 6, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, c'est-à-dire contre la chair des hommes, contre, en effet, les turpitudes humaines, à travers, eh bien là, toutes sortes de travers dont les hommes se rendent coupables, mais que nous avons à lutter contre des puissances, que nous avons à lutter contre des autorités, des principautés, des dominations, esprits méchants de domination. Et c'est pour ça, eh bien, que je l'ai cité il y a un instant, le diable est appelé le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Son chemin d'accès, le chemin d'accès de l'ennemi dans l'homme, dans l'humanité, c'est la brèche initiale, la brèche totale, fatale, c'est le péché. Ne cherchons pas d'autres mots parce que péché, ça veut dire manquer le but. Et les hommes ont manqué le but de Dieu. Allégeance par le péché qui donne des droits, puisque les hommes... nous est-il écrit, on préférait les ténèbres à la lumière. C'est leur choix, c'est leur libre arbitre. Un choix basé sur le mensonge et la séduction. Et nous avons naturellement en souvenir tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et qui a détourné l'homme de son créateur. Toutes les prises sont bonnes pour l'adversaire et ils font mouche à chaque fois parce qu'il y a naturellement un état de corruption dans, en effet, l'humanité pour s'introduire et faire d'une créature de Dieu soit un agent docile ou une victime. La mémoire collective a oublié les conditions du contrat, et le contrat était celui-ci. Dieu dira à Adam, « Eh bien, en effet, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, eh bien, tu mourras. » Alors voilà les conditions. Le péché a pour objet d'opérer l'engourdissement de la conscience humaine et de faire de l'homme soit sans réaction, qu'il soit sans réaction, donc il est consentant, ou alors il sera impuissant devant le mal, ne comprenant pas eh bien, les réalités, en effet, de tout ce désordre qu'il y a dans le monde. Il ne comprend pas, et nous savons que Paul va surenchérir en disant que les hommes de tous les temps, aujourd'hui encore, ont une intelligence obscurcie sur les choses spirituelles et ils sont étrangers à la vie de Dieu. La seule chose susceptible d'amener les hommes à s'affranchir et à s'affranchir de l'adversaire et de son poison mortel, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons en ce moment, vous qui écoutez, eh bien cette parole que je commente, la parole de Dieu, la parole divine, la semence qui crée la foi en nous, le savoir qui fait vivre ou et le savoir qui fait mourir. Il s'agit tout simplement d'un choix de notre part, c'est le croire ou non. Et ça déterminera naturellement notre destinée éternelle. L'effort constant du diable est de maintenir l'homme pécheur sous l'effet soporifique et illusoire d'une vie indépendante de Dieu. Lui faire croire, par exemple, qu'il est vivant alors qu'il est mort spirituellement, qu'il est dans la vérité alors qu'il est dans l'erreur et le mensonge, et il y croit, qu'il est sauvé alors qu'il est perdu. Et puis bien d'autres, en effet, c'est une inversion totale des choses. Ces moyens d'action sont multiples. Trois principaux que nous allons déterminer et qui sont, eh bien là, le sens du thème que nous avons choisi aujourd'hui. Il y a d'abord la séduction par la pensée, et on l'appelle la suggestion, tentation, c'est faire un rappel de quelques exemples probants. En Éden, eh bien, nous savons que le serpent ancien, que le diable, a fait croire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit ? Et ce serpent va instiller le doute dans le cœur d'Ève, et il va y avoir une perte pratiquement complète de la confiance de la créature dans son créateur. Et ça s'appelle l'incrédulité qui stérilise finalement la capacité de la foi. Dans Matthieu chapitre 16 et verset 22, nous avons cette parole, et là aussi je voudrais simplement eh bien, citer là le texte. Alors j'ai bien dit, chapitre 16 et verset 22, et nous savons que c'est Pierre à ce moment-là qui va se refuser à Jésus, parce que Jésus lui dit « Eh bien, je veux te laver les pieds ». On connaît l'histoire, hein, pour ceux qui sont familiarisés avec la Bible, et nous savons que Pierre a répondu ceci d'une manière assez étonnante. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, reprit Jésus et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, et là c'est intéressant en ce qui concerne la suggestion, mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Nous voyons qu'il s'adresse à Pierre, mais il dénonce la réalité invisible qu'il y a derrière Pierre et qui parle de cette manière. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous voyons qu'il y a là un détournement par une manipulation de l'ennemi pour, en effet, Pierre. Combien le diable sait manipuler l'arme de la suggestion. Elle peut devenir la racine de toutes les méchancetés que l'homme est capable de faire. Les suspicions, la jalousie, l'envie, les haines, l'égoïsme, la vengeance. La suggestion est facilitée lorsqu'elle trouve dans les cœurs des hommes des connivences, le relâchement moral, l'ignorance, l'assoupissement, etc. C'est alors que le tentateur rentre en jeu. Les trois suggestions du désert opposées à Jésus, eh bien, fais de ces pierres des pains. Je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores. Et si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en haut. Voilà la suggestion que Jésus entend de la bouche du diable pour essayer de le sortir finalement du plan de Dieu. Qu'il est difficile de discerner ce qui vient de notre propre pensée, de la voix perfide de l'adversaire. Il y a une dualité, il y a une division en nous. Toutefois, le mal reste le mal, mais Dieu nous a donné une conscience. Et c'est un signal d'alarme. C'est pour ça qu'il nous est dit dans 1 Pierre chapitre 5, « Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. » Dans le bonheur, dans le brouhaha intérieur, à l'intérieur de nous-mêmes, savoir faire la différence entre la voix de l'adversaire, deuxièmement, notre propre réflexion, notre propre raison, et puis également celle du bon berger. Le deuxième niveau d'intervention dans l'homme, c'est qu'on écoute les suggestions, premièrement, complaisamment. Elles deviennent rapidement des obsessions. Et le deuxième thème, c'est l'obsession. La voix qu'on aurait dû faire taire plus tôt parle maintenant haut et fort et s'impose à notre esprit, à notre âme et à notre conscience. Que faire? Il y a un deuxième exemple, c'est l'histoire de Caïn. Là, dans Genèse chapitre 4, qui va en effet eh bien, s'en prendre à son frère Abel, et ça va finir par le meurtre, par eh bien, l'assassinat d'Abel. Averti du danger, parce que Dieu avait prévenu Caïn, de ne pas céder au mal, Caïn laisse faire, il est passif, et notre passivité eh bien, fait l'affaire de l'ennemi. Il ouvre la porte, Caïn ouvre la porte au drame. L'explication la voici. Dans le cœur de Caïn stagne de mauvaises pensées, du ressentiment, des griefs contre son frère, la jalousie peut-être, dont l'adversaire va saisir l'occasion pour les transformer en obsession et assiéger la volonté de Caïn jusqu'à l'acte fatal, c'est-à-dire le meurtre. « Il faut que tu te venges, » dit la suggestion. « Il faut que tu sois le meilleur, que tu sois le plus fort, parce que tu es véritablement eh bien, le meilleur et le plus fort, tout simplement. » Alors c'est dans tous les cas de vol, de convoitise, d'adultère, de viol, enfin toutes sortes de choses qu'on peut multiplier à l'infini. Cela s'appelle non plus être tenté, mais laisser entrer la tentation. Entrer en tentation, c'est le thème biblique, hein. Entrer en tentation. Nous savons que le mal n'est plus à l'extérieur, mais il est à l'intérieur de nous-mêmes, et il va s'installer par l'obsession. L'adversaire pousse à la faute jusqu'à ce qu'il y soit parvenu. Le travail de l'obsession fausse la réalité, la dénature, grossit les problèmes, les déforme, on voit tout de travers. Les actes passionnels s'en suivent. Il y a combat intérieur, donc désordre, et on ne sait plus qui écouter, la raison ou la folie, la modération ou la passion, et nous savons que ça se termine par eh bien, un cœur partagé, un cœur tourmenté, déchiré. L'adversaire se rend peu à peu maître de la situation, et pour mieux régner, diviser la personnalité de l'individu qui tombe sous sa coupe et qui finalement désire encore s'en sortir, eh bien, ne peut qu'à grand-peine. Il va s'en sortir peut-être, mais il va le faire avec beaucoup de souffrance et beaucoup, finalement, eh bien, de lutte. La délivrance possible, oui. Toutefois, ça ne sera pas sans combat et avec une volonté énergique. « Veux-tu être guéri ?» dit Jésus à un homme, en effet paralysé, lui aussi par l'adversaire. « Eh bien, veux-tu être guéri ?» Depuis 38 ans qu'il est malade. Et véritablement, la question va être bien une prise de position de cet homme. Et nous voyons que le fils prodigue, c'est la même chose. Il est en prison dans ses choix. Et nous voyons qu'à un moment donné, il est tellement malheureux, il dira « Mais je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui demanderai finalement, eh bien, pardon. » Et c'est comme ça qu'il a pu retourner à une vie normale. Le feu allumé doit être éteint, mais toutefois, ça ne se passera pas sans se brûler, sans souffrance et avec de grandes blessures. Et voilà les conséquences. Nous arrivons à la troisième proposition. On l'a dit et je le répète. Nous voyons que la suggestion, on frappe à la porte. L'obsession, la deuxième, l'obsession, on laisse entrer. Et la troisième, c'est la cohabitation. L'adversaire s'installe, ce qui accroît ses droits sur nos vies et finit par régner en tyran sur nos propres vies. C'est l'homme de Gadara, c'est la femme qui est courbée, en effet, qui est malade depuis 12 ans, où Jésus dira, eh bien, voilà, ne fallait-il pas guérir cette femme hein, parce qu'elle était tenue par Satan depuis, je crois, 12 ans, une bonne décennie en tous les cas. Et puis, nous voyons que ça se termine par une aliénation ou physique, ou morale, ou mentale, ou spirituelle, quelquefois, eh bien, les quatre à la fois dans le but de ruiner, de faire souffrir, de tourmenter et de perdre. Habitation, c'est une intrusion. Alors comment ? Choc émotionnel, ça peut venir par des chocs émotionnels, par l'hérédité familiale, un accident brutal. Trafic occulte, attention à la magie, il faut faire attention à cela parce que ça laisse des ouvertures, les traumatismes, état prolongé de langueur, dépression, etc. Toutes les lésions psychiques non soignées peuvent développer un terrain favorable aux perturbations orchestrées par l'adversaire. Autre exemple typique poussé à l'extrême, caractéristique de notre monde moderne. Et là, il n'est plus question des hommes, il est question du monde dans lequel nous vivons, l'état d'esprit du monde, la manière de vivre dans ce monde, l'amour immodéré du monde et son adoration. L'homme a de tout temps éprouvé le besoin d'adorer. Il lui faut finalement une idole, alors il veut adorer quelqu'un ou quelque chose. Nous voyons que, eh bien là, il est dit à un moment donné, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde parce qu'elles sont contraires, finalement, eh bien, au bonheur que Dieu veut vous donner. Et nous voyons que la tromperie est tellement subtile, c'est qu'on n'y voit rien du tout, qu'on n'y voit pas le mal, et que tout le monde le fait, on se donne une bonne raison. Le monde entier gît dans le malin, nous dit un des apôtres. Des faits concrets, on peut citer les célébrations idolâtres à caractère religieux. Alors ça touche la religion, où on fait des hommes, non pas des hommes qui adorent Dieu, mais des hommes qui adorent les idoles. Hein, quelle que soit la nature et quelle que soit la forme. Et nous voyons que Jésus dira bien à la Samaritaine, « Ceux qui sont les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit, en vérité. » Et puis, il y a toujours ce mélange dans ces célébrations idolâtres de sacré et de profane, pour ne pas dire païen. Le caractère également provocateur des festivités carnavalesques. Sous les auspices de quelques saints, patrons, etc., ça c'est aussi toujours religieux. Les célébrations de victoire, pour ne citer que les sportives, qui se terminent en orgie, en bagarre, en désordre. Et on appelle ça les dieux du stade. Ça peut être une personnalité, un champion par exemple. Célébrations de victoire de la chanson, de la musique, où on en fait des idoles. Célébrations idolâtrant le vin, la sensualité, la virilité, la beauté physique, célébration quasi cultuelle du spectacle et toutes ces stars que l'on vénère pieusement. Quand le plaisir devient dépravation, la liberté devient libertinage. Le service de la patrie devient idolâtrie fanatique jusqu'à finalement être sanglant et dévastateur. L'abus et excès deviennent une idolâtrie laquelle on se drogue, c'est se doper, sans laquelle on ne saurait vivre. En dehors de son idole, on ne peut pas vivre. Et on l'entend quelquefois dans la bouche des gens en disant « Mais moi, c'est véritablement mon idole, c'est mon idole ». Derrière, il y a la manipulation, l'inspiration, l'inspirateur, qui offre à qui mieux, autant de fantaisistes substituts envoûtants et mais aliénants qui dépersonnalise les individus en se vantant de dépassement de soi, le culte de l'espoir, la performance, la prouesse et fait de la créature de Dieu, eh bien là, un ersaste de petit Dieu enchaîné à celui qui l'a séduit et qui le tient. Et vous serez, nous dit le livre de le début du livre de la Genèse, vous serez comme des dieux. Ça, c'est une illusion que le diable a voulu faire croire à l'humanité. On ne sera jamais des dieux. Dieu est Dieu et nous sommes ses créatures. Satan remodèle à son image l'homme créé à l'image de Dieu, asservissement, dépravation, excentricité, perversion, volonté, et le résultat c'est que la volonté est liée, les hommes ne peuvent plus s'en défaire, ils sont prisonniers. Le monde entier gît dans le malin, et nous savons que nous sommes exhortés à nous sauver de cette génération. Réalité ou mythe, cohabitation, qui est le plus fort? Et nous savons que la situation, eh bien, elle a été résolue parce que Jésus nous a donné par sa parole et son exemple de vie la connaissance, la reconnaissance du péché, et nous l'avons confessé. C'est-à-dire que nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, et ça s'appelle la conversion. Et puis, nous voyons que nous avons aussi passé par l'expérience de la repentance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pour conclure, Jésus nous laisse cette dernière parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, épuisés par ce combat, cette lutte, ce sentiment d'être en prison, de ne pas être libre, d'être malheureux. Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes, pour vos corps, pour vos esprits. Alors que Dieu nous donne toute sa grâce, et nous voulons tout simplement vous remercier de votre écoute attentive, et à bientôt pour un prochain commentaire. Merci.